Mémoire de Vidocq, chapitre 19, début. Dès le soir même, je retournai à Boulogne, où j'appris que, d'après un ordre du général en chef, tous les individus qui, dans chaque corps, étaient signalés comme mauvais sujets, devaient être immédiatement arrêtés et embarqués à bord des bâtiments armés en cours. C'était une espèce de presse qu'on allait exercer pour purger l'armée et mettre un terme à sa démoralisation qui commençait à devenir alarmante. Ainsi, désormais, il n'y avait plus moyen de m'isoler qu'en quittant la revanche, sur laquelle, pour réparer les pertes du dernier combat, l'armateur ne manquerait pas d'envoyer quelques-uns de ses hommes dont le général jugerait à propos de se défaire. Puisque Canivet et ses affides ne devaient plus reparaître dans les camps, je n'y avais plus aucun inconvénient à me faire soldat. Muni des papiers de Lebel, je m'enrôlai dans une compagnie de canonniers de marine qui faisait le service de la côte. Et comme Lebel avait autrefois été caporal dans cette armée, j'obtins ce grade à la première vacance, c'est-à-dire 15 jours après mon admission. Une conduite régulière et la parfaite intelligence de manœuvre que je connaissais comme un artilleur de la vieille Roche me valurent promptement la bienveillance de mes chefs. Et une circonstance qui aurait dû me faire perdre acheva de me concilier leur estime. J'étais de garde au fort de l'Eure. C'était pendant les grandes marées. Il faisait un temps affreux. Des montagnes d'eau balayaient la plateforme avec une telle violence que les pièces de 36 n'étaient plus immobiles dans leurs embrasures. À chaque renouvellement de la lame, on eût dit que le fort entier allait être emporté. Tant que la Manche ne serait pas plus calme, il était plus qu'évident qu'aucun navire ne se montrerait. La nuit venue, je supprimai donc les sentinelles, permettant ainsi aux soldats du poste que je commandais de goûter les douceurs du lit de camp jusqu'au lendemain. Je veillais pour eux, ou plutôt, je ne dormais pas, parce que je n'avais pas besoin de sommeil. Lorsque, sur les 3 heures du matin, quelques mots que je reconnais pour de l'anglais frappent mon oreille, en même temps que l'on heurte à la porte placée au bas de l'escalier qui conduit à la batterie. Je crus que nous étions surpris. Aussitôt, j'éveille tout le monde, je fais charger les armes, et déjà je m'apprête à rendre chèrement ma vie, quand, à travers la porte, j'entends la voix et les gémissements d'une femme qui implore notre assistance. Bientôt, je distingue clairement ces paroles françaises. « Ouvrez, nous sommes des naufragés !» J'hésite un moment. Cependant, après avoir pris mes précautions pour immoler le premier qui se présenterait avec des intentions hostiles, j'ouvre et je vois entrer une femme, un enfant et 5 matelots qui étaient plus morts que vifs. Mon premier soin fut de les faire réchauffer. Ils étaient mouillés jusqu'aux os et transis de froid. Mes canonniers et moi, nous leur prêtâmes des chemises et des vêtements, et dès qu'ils se furent un peu remis, ils me racontèrent l'accident qui nous procurait l'honneur de leur visite. Parti de la Havane sur 3 mâts, et à la vie de terminer une heureuse traversée, ils étaient venus se briser contre le môle de pierre qui nous renfermait, et n'avaient échappé à la mort qu'en se précipitant des unes sur les batteries. 19 de leurs compagnons de voyage, parmi lesquels le capitaine, avait été englouti dans les flots. La mer nous tint encore bloqués 8 jours, sans que l'on osât envoyer une chaloupe pour nous relever. Au bout de ce temps, je fus ramené à terre avec mes naufragés, que je conduisis moi-même chez le chef militaire de la marine, qui me félicita comme si je les eusse fait prisonniers. Si c'était là une brillante capture, c'est bien le cas de dire qu'elle ne m'avait coûté qu'un peu. Quoi qu'il en soit, dans la compagnie, elle fit concevoir la plus haute opinion de moi. Je continuai à remplir mes devoirs avec une exactitude exemplaire. 3 mois s'écoulèrent et je ne méritais que des éloges. Je me proposais d'en mériter toujours. Mais une carrière aventureuse ne cesse pas de l'être tout d'un coup. Une fatale propension à laquelle j'obéissais malgré moi, et souvent à mon insu, me rapprochait constamment des personnes ou des sujets qui avaient le plus à s'opposer à ce que je maîtrisasse ma destinée. Et ce fut à cette singulière propension que, sans être agrégé aux sociétés secrètes de l'armée, je dus être invité à leur mystère. C'est à Boulogne que ces sociétés prirent naissance. La première de toutes, quoi qu'on en ait pu dire, M. Naudier, dans son histoire des Philadelphes, fut celle des Olympiens, dont le fondateur apparent fut un nommé Cromwell de Namur. Elle ne se composa d'abord que d'aspirants et d'enseignes de la marine, mais elle ne tarda pas à prendre des accroissements et l'on y admit des militaires de toutes les armes, principalement de l'artillerie. Cromwell, qui était fort jeune, il n'était qu'aspirant de première classe, se démit de son titre de chef des Olympiens et rentra dans les rangs ses frères qui élurent un vénérable et se constituèrent avec des formes maçonniques. La société n'avait pas encore de but politique, ou du moins, si elle en avait un, il n'était connu que des membres influents. Le but avoué était l'avancement mutuel. L'Olympien qui s'élevait devait concourir de tout son pouvoir à l'élévation des Olympiens qui étaient dans des grades inférieurs. Pour être reçu, si on appartenait à la marine, il fallait être au moins aspirant de seconde classe et au plus capitaine de vaisseau. Si l'on servait dans les troupes de terre, la limite allait du colonel à l'adjudant sous-officier exclusivement. Je n'ai pas entendu dire que dans leurs réunions, les Olympiens aient jamais agité des questions qui eussent trait à la conduite du gouvernement, mais on y réclamait l'égalité, la fraternité, et l'on y prononçait les discours qui contrastent beaucoup avec les doctrines impériales. À Boulogne, les Olympiens se rassemblaient habituellement chez une madame Herveux qui tenait une espèce de café borgne peu fréquenté. C'était là qu'ils tenaient leurs séances et qu'ils faisaient leur réception dans une salle qui leur était consacrée. Il y avait à l'école militaire ainsi qu'à l'école polytechnique des loges qui étaient affiliées aux comptes olympiens. En général, l'initiation se réduisait à des mots de passe, à des signes, à des attachements que l'on enseignait aux récipiendaires. Mais les véritables adeptes savaient et voulaient autre chose. Le symbole de la société expliquait assez les intentions de ces derniers. Un bras armé d'un poignard sorti de la nue. Au-dessous, l'on voyait un buste renversé, c'était celui de César. Ce symbole, dont le sens se révèle de lui-même, était empreint sur le sceau des diplômes. Et ce sceau avait été modelé en relief par un canonnier nommé Beaugrand ou Belgrand, employé à la direction de l'artillerie. On en avait ensuite obtenu le creux en cuivre au moyen de la fonte rectifiée par la ciselure. Pour être reçu olympien, il fallait avoir fait preuve de courage, de talent et de discrétion. Les militaires d'un mérite distingué étaient ceux que l'on cherchait à enrôler de préférence. On faisait en sorte, autant que possible, d'attirer dans la société les fils des patriotes qui avaient protesté contre l'érection du trône impérial ou qui avaient été persécutés. Sous l'Empire, il suffisait d'appartenir à une famille de mécontents pour se trouver dans la catégorie des admissibles. Les chefs véritables de ces associations étaient dans l'ombre et ne communiquaient pas leurs projets. Ils complotaient le renversement du despotisme, mais ils ne mettaient personne dans leurs confidences. Il fallait que les hommes, au moyen desquels ils espéraient que ce résultat s'accomplirait, fussent des conjurés à leur insu. Personne ne devait leur proposer de conspirer, mais ils devaient en trouver et la force et la volonté dans leur propre situation. C'est en vertu de cette combinaison que les Olympiens finirent par se recruter jusque dans les derniers rangs des années et des armées tant de terre que de mer. Un sous-officier ou un soldat, marqué-t-il par son instruction, par l'énergie de son caractère, par sa fermeté, par son esprit d'indépendance, les Olympiens l'attiraient à eux, et bientôt il entrait dans cette confraternité où l'on s'engageait, sous la foi du serment, se donner les uns aux autres aide et protection. L'appui réciproque, l'on se promettait ainsi, semblait être le seul lien de la société. Mais au fond, il y avait une préméditation cachée. On savait, d'après une longue expérience, que sur 100 individus admis, à peine 10 obtiendraient un avancement proportionné à leur mérite. Ainsi, sur 100 individus, il est probable qu'avant peu d'années, on compterait 90 ennemis de l'ordre choisis et choses dans lesquelles il leur avait été impossible de se caser. C'était le comble de l'adresse d'avoir classé de la sorte, sous une dénomination commune, des hommes entre lesquels on était certain qu'il n'y aurait plus tard l'infinité d'un mécontentement. Des hommes qui seraient irrités et qui, fatigués de l'injustice, ne manqueraient pas de saisir avec empressement l'occasion de se venger. Ainsi se trouvait fomentée une ligue qui, pour considérer d'elle-même, n'en avait pas moins une existence réelle. Les éléments d'une conspiration étaient rapprochés. Ils se perfectionnaient, se développaient de plus en plus, mais il ne devait point y avoir de conspiration tant que cette conspiration n'éclaterait pas. On attendait le moment propice. Les Olympiens précédèrent de plusieurs années les Philadelphes avec lesquels ils se confondirent plus tard. L'origine de leur société est un peu antérieure à l'époque du sacre de Napoléon. On assure qu'ils se réunirent pour la première fois à l'occasion de la disgrâce de l'amiral Truguet, destitué parce qu'il avait voté contre le consulat à vie. Après la condamnation de Moreau, la société, constituée sur des bases plus larges, compta un grand nombre de Bretons et de Franc-Comtois. Parmi ces derniers, élu Houdet, qui puisa chez les Olympiens la première idée de la Philadelphie. Les Olympiens existèrent près de 2 années sans que le gouvernement parût s'en inquiéter. Enfin, en 1806, M. de Villiers, commissaire général de police à Boulogne, écrivit à Fouché pour lui dénoncer leur rassemblement. Il ne les signalait pas comme dangereux, mais il croyait de son devoir de les faire surveiller. Il n'avait près de lui aucun agent à qui il pût confier une pareille tâche. Il pria en conséquence le ministre d'envoyer à Boulogne un de ces mouchards exercés que la police politique a toujours sous la main. Le ministre répondit au commissaire général qui le remerciait beaucoup de son zèle pour le service de l'empereur, mais que depuis longtemps on avait l'œil sur les Olympiens ainsi que sur plusieurs autres sociétés du même genre, et que le gouvernement était assez fort pour ne pas les craindre dans le cas où elles conspireraient, et que d'ailleurs il ne pouvait pas y avoir que les trames d'idéologues dont l'empereur ne se souciait nullement, et que, selon toute apparence, les Olympiens étaient des rêveurs et leur réunion une de ces puérilités maçonniques inventées pour amuser des niais. Cette sécurité de Fouché n'était pas réelle, car à peine eut-il reçu l'avis que lui avait été transmis par M. de Villiers, qu'il manda dans son cabinet le jeune comte de L., qui était initié au secret de presque toutes les sociétés de l'Europe. L'homme écrit de Boulogne, lui dit-il, qu'il vient de se former dans l'armée une espèce de société secrète sous le titre d'Olympien. On ne me fait pas connaître le but de l'association, mais on m'annonce qu'elle a des ramifications très étendues. Peut-être se rattache-t-elle aux conciliabules qui se tiennent chez Bernadotte ou chez Madame de Stahl. Oh, je sais bien ce qui se passe ici. Gara, qui me croit son ami, et à qui la bonhomie de supposer que je suis encore patriote, ni plus ni moins qu'en 93, me raconte tout. Il y a des jacobins qui imaginent que je regrette la République et que je pourrais travailler à la rétablir. Ce sont des sots que j'exile ou que je place suivant que cela me convient. Truguer, Rousselin, Gaguenet ne font pas un pas, ne disent pas un mot que je n'en sois aussitôt averti. Ce sont des gens peu redoutables, comme toute la clique de Moreau. Ils bavardent beaucoup et agissent peu. Cependant, depuis quelque temps, ils semblent vouloir se faire un parti dans l'armée. Il m'importe de savoir ce qu'ils veulent. Les Olympiens sont peut-être une de leurs créations. Il serait bien utile que vous fussiez recevoir Olympien. Vous me révéleriez les mystères de ces messieurs, et alors je verrai quelles mesures il faut prendre. Le comte de L répondit à Fouché que la mission qu'il lui proposait était délicate, que les Olympiens ne faisaient probablement aucune réception sans avoir pris auparavant des informations sur le compte du récipiendaire, et qu'en outre, on ne pouvait pas être admis si on n'appartenait pas à l'armée. Fouché réfléchit un instant sur ces obstacles, puis, prenant la parole, « Oh, j'ai, dit-il, découvert un moyen de vous faire initier promptement. Vous vous rendrez à Gênes. Là, vous trouverez un détachement des conscrits liguriens qui doivent incessamment être dirigés sur Boulogne pour y être incorporés dans le 8e régiment d'artillerie à pied. Et parmi eux est un comte Boccardi que sa famille a vainement cherché à faire remplacer. Vous vous offrez à partir à la place du noble génois. Et pour lever à cet égard toute espèce de difficulté, je vais vous remettre un certificat constatant que vous avez, sous le nom de Bertrand, satisfait aux lois sur la conscription. Et au moyen de cette pièce, vous êtes agréé et vous partez avec le détachement. Arrivé à Boulogne, vous aurez affaire à un colonel fanatique de maçonnerie, d'illuminisme, d'hermétisme, etc. Vous vous ferez reconnaître, et comme vous êtes dans les hauts grades, il ne manquera pas de vous protéger. Vous pourrez alors lui faire, au sujet de votre origine, toutes les ouvertures que vous jugerez à propos. Ces confidences auront d'abord pour effet d'atténuer l'espèce de défaveur qui s'attache toujours à la qualité de remplaçant. Elles vous attireront ensuite la considération des autres chefs, mais il est indispensable que l'on croie qu'il y a eu pour vous nécessité de vous faire soldat. Sous votre véritable nom, vous étiez en butte à des persécutions de la part de l'empereur, et c'est pour échapper à la proscription que vous êtes caché dans le régiment. Voilà votre histoire. Elle circulera dans les camps et l'on ne doutera pas que vous ne soyez une victime et un ennemi du système impérial. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le plus long détail. Le reste s'effectuera tout seul. Au surplus, je m'en remets entièrement à votre sagacité. » Muni de ces instructions, le comte de L partit pour l'Italie, et bientôt après, il revint en France avec les conscrits liguriens. Le colonel Aubry l'accueillit comme un frère que l'on revoit après une longue absence. Il le dispensa des manœuvres de l'exercice, assembla la loge du régiment pour le recevoir et le fêter, lui fit 1000 politesses, l'autorisa à se mettre en bourgeois et le traita en un mot avec la plus grande distinction. En peu de jours, toute l'armée sut que M. Bertrand était un personnage. On ne pouvait pas lui donner les épaulettes, alors on le nomma sergent, et les officiers, oubliant pour lui seul qu'il était sur les degrés inférieurs de la hiérarchie militaire, n'hésitèrent pas à l'admettre dans leur intimité. M. Bertrand était devenu véritablement l'oracle du corps. Il avait de l'esprit, une instruction très variée, et l'on était disposé à le trouver plus instruit et plus spirituel encore qu'il ne l'était. Quoi qu'il en fût, il ne tarda pas à se lier avec plusieurs Olympiens qui tinrent un singulier honneur de le présenter à leur frère. M. Bertrand fut initié, et dès qu'il eut réussi à se mettre en communication avec les sommités de l'Olympe, il adressa des rapports au ministre de la Justice et de la Police. Ce que je viens de raconter de la Société des Olympiens et de M. Bertrand, je le tiens de M. Bertrand lui-même. Et pour légitimer la vérité de mon récit, ne sera peut-être pas superflu de dire par quelles circonstances il fut amené à se faire confidence de la mission dont il était chargé, et à me révéler des particularités dont il se fait mention ici pour la première fois. Rien de plus fréquent à Boulogne que le duel dont la funeste manie avait gagné jusqu'au paisible néerlandais de la flottille sous les ordres de l'amiral Venvel. Il y avait surtout, non loin du camp de gauche, au pied d'une colline, un petit bois dans le voisinage duquel on ne passait jamais, quelle que fût l'heure du jour, sans voir sur la lisière une douzaine d'individus engagés dans ce qu'on appelle une affaire d'honneur. C'est dans cet endroit qu'une amazone célèbre, la demoiselle d'Yves, tomba sous le fer d'un ancien amant, le colonel Camb, qui, ne l'ayant pas reconnue sous des habits d'homme, avait accepté d'elle un combat singulier. La demoiselle d'Yves, qu'il avait abandonné pour une autre, avait voulu périr de sa main. Un jour que, de l'extrémité du plateau que peuplait la longue file des baraques du camp de gauche, j'abaissais mon regard sur le théâtre de cette scène sanglante, j'aperçus à quelque distance du petit bois deux hommes dont l'un marchait sur l'autre, qui battaient en retraite à travers l'air plaine. Alors, pantalon blanc, je reconnus les champions pour Hollandais. M'arrêtai un instant à les considérer. Bientôt, l'assaillant rétrograde à son tour. Enfin, se faisant mutuellement peur, ils rétrogradèrent en même temps en agitant leurs sabres. Puis l'un d'eux, venant à s'enhardir, lança son briquet à son adversaire et le poursuivit jusqu'à la berge d'un fossé que cet adversaire ne put franchir. Alors, chacun d'eux, renonçant à se servir de son sabre, même comme projectile, un combat à coups de poing s'engagea entre ces hommes, qui vidèrent ainsi leur querelle. Je m'amusais de ce duel grotesque quand je vis tout près d'une femme où nous allons quelquefois, d'une ferme où nous allons quelquefois manger du cardio, espèce de bouillie blanche faite avec de la farine et des œufs, deux individus qui, débarrassés de leurs habits, se préparaient à mettre l'épée à la main en présence de leur témoin, qui était d'un côté un maréchal des logis du 10e régiment de dragons et de l'autre un fourrier de l'artillerie. Bientôt les fers se croisèrent. Le plus petit des combattants était un sergent des canonniers. Il rompait avec une intrépidité sans égale. Enfin, après avoir parcouru une cinquantaine de pas, je crus qu'il allait être percé de part en part lorsque tout à coup, il disparut comme si la terre se fût entr'ouverte sous lui. Aussitôt, un grand éclat de rire se fit entendre. Après ce premier mouvement d'une gaieté bruyante, les assistants se rapprochèrent. Je les vis se baisser. Poussés par un sentiment de curiosité, je me dirigeai vers eux et j'arrivai fort à propos pour les aider à retirer d'un trou pratiqué pour l'écoulement d'une auge à pourceau le pauvre diable dont la disparition subite m'avait frappé d'étonnement. Il était presque asphyxié et tout couvert de fange des pieds à la tête. Le grand air lui rendit assez vite l'usage de ses sens, mais il n'osait respirer. Il craignait d'ouvrir la bouche et les yeux, tant le liquide dans lequel il avait été plongé était infect. Dans cette fâcheuse situation, les premières paroles qu'il entendit furent des plaisanteries. Je me sentis révolté de ce manque de générosité, et cédant à ma trop juste indignation, je lançai à l'antagoniste de la victime ce coup d'œil provocateur qui de soldat à soldat n'a pas besoin d'être interprété. « Il suffit, me dit-il, je t'attends de pied ferme. » Et à peine suis-je en garde, que sur ce bras qui oppose un furet à celui que j'ai ramassé, je remarque un tatouage qu'il me semble reconnaître. C'était la figure d'une ancre dont la branche était entourée des replis d'un serpent. « Mais je vois la queue, m'écriai-je, garde la tête !» Et en donnant cet avertissement, je me fendis sur mon homme que j'atteignis au téton droit. « Je suis blessé, dit-il alors. Est-ce au premier sang ?»« Oui, au premier sang, lui répondis-je. Et sans plus attendre, je me mis en devoir de déchirer ma chemise pour panser sa blessure. » Il fallut lui couvrir la poitrine. J'avais deviné la place de la tête du serpent qui venait comme lui mordre l'extrémité du sein. C'était là que j'avais visé. Et en voyant que j'examinais alternativement ce signe et les traits de son visage, mon adversaire ne laissait pas de concevoir de l'inquiétude. Je m'empressai de le rassurer par ces paroles que je lui dis à l'oreille. « Je sais qui tu es, mais ne crains rien, je suis discret. »« Oh, je te connais aussi, » me répondit-il en me serrant la main, « et je me tairai. » Celui-là qui me promettait ainsi son silence était un forçat évadé du bagne de Toulon. Il m'indiqua son nom d'emprunt et m'apprit qu'il était maréchal de logis-chef au 10e de dragon, où il éclipsait par son luxe tous les officiers du régiment. Tandis qu'avait lieu cette reconnaissance, l'individu dont j'avais pris la défense en véritable redresseur de tort essayait de laver dans un ruisseau le plus gros de la souillure dont il était couvert. Il revint promptement auprès de nous. Tout le monde était plus calme. Il ne fut plus question que de différends, et l'envie de rire avait fait place à un désir sincère de réconciliation. Le maréchal des jolis chefs, que je l'avais blessé que très légèrement, proposa de signer la paix au Canon d'Or, où il y avait toujours d'excellentes matelotes et des canards plumés d'avance. Il nous y paya un déjeuner de prince qui se prolongea jusqu'au souper, dont la partie adverse fit les frais. La journée complète, on se sépara. Le maréchal des logis-chefs me fit promettre de le revoir, et le sergent ne fut pas content que je ne l'eusse accompagné chez lui. Ce sergent était M. Bertrand. Il occupait dans la haute ville un logement d'officier supérieur. Dès que nous y fûmes seuls, il me témoigna sa reconnaissance avec toute la chaleur dont est capable, après boire, un poltron que l'on a sauvé d'un grand danger. Il me fit des offres de service de toute espèce, et comme je n'en acceptais aucune, « Vous croyez peut-être, me dit-il, que je ne puis rien. Il n'est point de petit protecteur, mon camarade. Si je ne suis que sous-officier, c'est que je ne veux pas être autre chose. Je n'ai point d'ambition, et tous les Olympiens sont comme moi. Ils font peu de cas de misérables distinctions de grade. » Je lui demandais ce qu'étaient les Olympiens. « Oh, ce sont, me répondit-il, des gens qui adorent la liberté et préconisent l'égalité. Voudriez-vous être olympien ? Oh, pour peu que cela vous tente, je me charge de vous le faire recevoir. » Je remerciais M. Bertrand et j'ajoutais que je ne voyais pas trop la nécessité de m'enrôler dans une société sur laquelle devait tôt ou tard se porter l'attention de la police. « Vous avez raison, reprit-il, en me marquant un véritable intérêt. Ne vous faites pas recevoir, car tout cela finira mal. » Et alors il commença à me donner sur les Olympiens les détails que j'ai consignés dans ses mémoires. Puis, comme il était encore sous l'influence confidentielle et singulièrement expansive du champagne dont nous étions abreuvés, il me révéla sous le sceau du secret la mission qu'il était venu à remplir à Boulogne. Après cette première entrevue, je continuais de voir M. Bertrand, qui restait encore quelque temps à son poste d'observateur. Enfin, l'époque arriva où, suffisamment instruit, il demanda et obtint un congé d'un mois. Il avait, disait-il, il allait recueillir une succession considérable, mais le mois expiré, M. Bertrand ne revint pas. Le bruit se répandit qu'il avait emporté une somme de 12 000 francs que lui savait confier le colonel Aubry, à qui il devait ramener un équipage et des chevaux. Une autre somme destinée à ses emplettes pour le compte du régiment était passée de la même manière dans l'actif de M. Bertrand. On sut qu'à Paris, il était descendu rue Notre-Dame des Victoires à l'hôtel de Milan, où il avait exploité à outrance un crédit imaginaire. Toutes ces particularités constituaient une mystification dont les dupes n'osent pas même se plaindre sincèrement. Seulement, il fut constaté que M. Bertrand avait disparu. On le jugea, et comme déserteur, il fut condamné à 5 ans de travaux publics. Peu de temps après, arriva l'ordre d'arrêter les principaux d'entre les Olympiens et de dissoudre leur société. Mais cet ordre ne put être exécuté qu'en partie. Les chefs, avertis que le gouvernement allait sévir contre eux, et le jeter dans les cachots de Vincennes ou de toute autre prison d'État, préférèrent la mort à une si misérable existence. 5 suicides eurent lieu le même jour. Un sergent-major du 25e de ligne et 2 sergents d'un autre corps se firent sauter la cervelle. Un capitaine, qui la veille avait reçu son brevet de chef de bataillon, se coupa la gorge avec un rasoir. Il était logé au Lion d'Argent. L'aubergiste, M. Baudroit, étonné de ce que, suivant sa coutume, il ne descendait pas pour déjeuner avec les autres officiers, frappa à la porte de sa chambre. Le capitaine était alors placé au-dessus d'une cuvette qu'il avait disposée pour recevoir son sang. Il remet précipitamment sa cravate, ouvre, essaie de parler et tombe mort. Un officier de marine qui montait une prame chargée de poudre y mit le feu, ce qui entraîna l'explosion de la prume voisine. La terre trembla à plusieurs lieues à la ronde. Toutes les vitres de la basse ville furent brisées. Les façades de plusieurs maisons sur le port s'écroulèrent. Des débris de gréement, des natures brisées, des lambeaux de cadavres furent jetés à plus de 1800 toises. Les équipages de 2 bâtiments périrent. Un seul homme fut sauvé, comme par miracle. C'était un matelot qui était dans les hunes. Le mât avec lequel il fut emporté jusque dans la nue retomba perpendiculairement dans la vase du bassin qui était à sec et s'y planta à une profondeur de plus de 10 pieds. Et on trouva le matelot vivant. Mais dès ce moment, il eut perdu l'ouïe et la parole qu'il ne retrouva jamais. À Boulogne, on fut surpris de la coïncidence de ces événements. Des médecins prétendirent que cette simultanéité de suicide avait été déterminée par une disposition résultant d'un état particulier de l'atmosphère. Ils invoquaient, à l'appui de leur opinion, une observation faite à Vienne, en Autriche, où l'été précédent, grand nombre de jeunes filles, entraînées comme par une sorte de frénésie, s'étaient suicidées le même jour. Quelques personnes croyaient expliquer ce qu'il y avait d'extraordinaire dans cette circonstance, en disant que rarement un suicide, quand il est ébruité, n'est pas accompagné de 2 ou 3 autres. En résumé, le public sut d'autant moins à quoi s'en tenir que la police, qui craignait de laisser apercevoir tout ce qui pouvait caractériser l'opposition au régime impérial, faisait à dessein circuler les bruits les plus étranges. Et les précautions furent si bien prises qu'à cette occasion, le nom d'Olympien ne fut même pas prononcé une seule fois dans les camps. Cependant, la cause de tant d'aventures tragiques était dans la dénonciation de M. Bertrand. Sans doute, il fut récompensé, j'ignore de quelle manière. Mais ce qui me paraît probable, c'est que la haute police, satisfaite de ses services, dut continuer de l'employer, puisque, quelques années plus tard, on le rencontra en Espagne, dans le régiment d'Isambourg, où il était devenu lieutenant. Il n'était pas regardé comme un moins bon gentilhomme que les Montmorency, les Saint-Simon et autres rejetons de quelques-unes des plus illustres maisons de France qui avaient été placées dans ce corps.